franceinter.fr.
Depuis sa découverte en 1990, les chercheurs se demandent à quoi ressemble le virus de l'hépatite C. Avec les progrès de l'imagerie microscopique, ça fait maintenant 25 ans, figurez-vous, que les chercheurs savent qu'ils ont les moyens techniques d'obtenir ces images. Mais ça fait également 25 ans que tout le monde échoue, tous sauf vous, Jean-François Meunier. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Vidard, donc c'est Jean-Christophe Meunier.
Ah, Jean-Christophe Meunier, excusez-moi. Alors je refais mon lancement. Tous, sauf vous, Jean-Christophe Meunier, bonjour, voilà, nous
bonjour,
sommes en direct.
Monsieur Vidard.
Vous êtes docteur avec votre collègue Éric Pivert, ça c'est son bon prénom, son bon nom,
à
l'Inserm de Tours. Et vous venez de publier les premiers clichés authentifiés donc du virus de l'hépatite C. 25 ans d'échec, c'est quand même un petit peu long. Pourquoi est-ce que ça a été si compliqué d'observer ce virus?
Bah écoutez, le problème principal de ce virus, c'est que il a réussi en fait à, pour leurrer le système immunitaire, par exemple, il a réussi à intégrer ce qu'on appelle les lipoprotéines et qui sont des transporteurs tout à fait classiques chez les humains du cholestérol. Et donc il est caché à l'intérieur de ce cholestérol, du cholestérol de cette lipoprotéine. Ce qui fait qu'en fait, il ressemble parfaitement à une lipoprotéine, ce qui a rendu son identification extrêmement complexe.
Alors, en fait, il se déguise.
Tout à fait, il se déguise. De l'extérieur, il ressemble tout à fait à une particule lipidique, ce que le système immunitaire est complètement habitué à voir dans l'organisme et que donc, à aucun prix, il ne va attaquer. Donc,
J'imagine que tout le monde ne sait pas à quoi ressemble une lipoprotéine. Est-ce que vous pouvez nous décrire un tout petit peu la photo que vous avez publiée, qui est assez impressionnante quand même.
Et qu'on peut voir d'ailleurs sur le site. Hein.
Oui. Donc en fait, si on peut prendre une image assez simple de cette particule virale, on pourrait dire que dans le sang des patients, elle ressemble à un œuf, en fait. Un œuf tout blanc, donc blanc comme des lipides, du gras, et avec le blanc de l'œuf qui serait donc la partie cholestérol, de la particule virale. Et à l'intérieur de ce cholestérol, il y a le matériel génétique du virus qui serait représenté par le jaune et qui serait donc protégé par une nucléocapside. Donc la partie virale est cachée à l'intérieur de cette particule lipidique.
Mais alors quel a été votre secret, Jean-Christophe Meunier, pour réussir ce cliché?
Les chercheurs ont un peu l'habitude de faire toujours les mêmes choses de la même façon et pour chercher cette particule, les gens ont fait comme on fait en général pour détecter un virus. On va voir en microscopie électronique des particules qui se ressemblent toutes et qui sont étrangères dans le sang d'un patient normal. Et de cette façon-là, personne ne l'a trouvé. Donc avec mon collègue Éric Pivert, nous sommes dit peut-être que ce virus ne ressemble pas du tout à un virus classique. Et donc il faut faire les choses autrement. Il faut aller attraper dans le sang toutes les particules qu'on peut attraper et regarder ce qui pourrait ressembler à une particule virale. C'est ce que nous avons fait. Nous avons pu faire ces images donc exceptionnelles.
Mais comment vous avez attrapé justement le virus alors exactement dans le sang?
Alors en fait, on utilise en microscopie électronique ce qu'on appelle des grilles. C'est des supports sur lesquels on met nos échantillons à observer. Et on a mis des anticorps sur ces grilles qui reconnaissent les particules virales natives. Et donc en fait, on pourrait prendre comme image comme si on mettait du velcro en fait sur nos grilles de microscopie électronique, et ce qui permet d'aller attraper directement dans le sang les particules virales. De cette façon, elles sont complètement protégées, elles sont complètement épargnées et on peut observer leur structure native, naturelle.
Ces petites capsules de cholestérol dans lesquelles le virus se cache, à quoi elles servent dans notre corps humain?
Ce sont des poches de lipides en fait qui sont produites par le foie. Et ces poches de lipides, donc il y a du cholestérol, mais un certain nombre d'autres choses, circulent à travers tout l'organisme et permettent d'apporter donc ce cholestérol aux cellules périphériques, aux organes, et ça sert de carburant en fait aux cellules de ces différents organes. Donc c'est absolument indispensable à la vie, et dans le sang, il en circule une extrêmement grande quantité en fait.
Ça veut dire que le virus se balade partout dans notre organisme en continu alors?
Tout à fait. Donc il se balade au milieu de ces lipoprotéines en continu, sauf que le virus, pour rentrer dans une cellule cible, il a besoin de ce qu'on appelle des récepteurs, il a besoin de s'accrocher sur cette cellule pour pouvoir rentrer. Et les seules cellules du corps humain qui possèdent ces récepteurs, ce sont les cellules hépatiques, donc les cellules du foie. Il a beau se balader partout dans l'organisme, il n'y a aucune cellule qui va pouvoir être infectée par ce virus, sauf les cellules du foie. Donc il est dangereux, sauf n'est pas dangereux, à part pour les cellules du foie.
Est-ce qu'il était important ce cliché pour lutter contre la maladie? Parce que finalement, on la connaît bien, on la soigne même depuis peu. Mm-hmm. En quoi il était important aujourd'hui?
Alors donc effectivement, on le soigne depuis peu avec donc ces traitements qui sont extrêmement onéreux. Mais c'est aussi très important parce que comme ces traitements sont chers et qu'ils sont accessibles à très peu de gens, l'idéal serait d'avoir un vaccin. Et pour développer un vaccin, on a besoin de savoir à quoi ressemble cette particule virale. On a besoin de savoir quelles sont les protéines, quelles sont les structures qui se trouvent à la surface, et donc quelles sont les structures qu'on va cibler quand on va fabriquer ce vaccin. Donc c'est très important d'avoir une idée de la structure.
Jean-Christophe Meunier, est-ce qu'il y a d'autres virus dans le cas justement de l'hépatite C pour lequel il manque la photo?
Non, alors le virus de l'hépatite C est un peu exceptionnel de ce côté-là, puisqu'on l'a découvert par des techniques de biologie moléculaire, et tous les autres virus ont été découverts en microscopie électronique. Donc, non, c'est un virus qui est assez exceptionnel, et assez exceptionnel parce qu'il se cache dans cette lipoprotéine, ce qui n'est pas le cas de tous les autres virus.
Donc vous avez comblé une case dans l'album de famille, quoi.
Oui. Tout à fait, on a pris une jolie photo, et c'est vrai qu'on a, en fait, on a validé tout un tas de recherches qui avaient été faites précédemment. On avait une idée de l'organisation de ce virus, mais par des techniques indirectes de biologie moléculaire. Donc nous, on est venu valider tout ça avec une photo, et donc la photo, c'est quand même révélateur et très parlant.
Jean-Christophe Meunier, ce jour où vous avez justement obtenu la photo, vous avez dit ça y est, on l'a sous les yeux. Vous allez vous en souvenir longtemps, non?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je me souviens parfaitement du jour où c'est arrivé. C'est des moments excitants quand on fait de la science, de enfin arriver au résultat qu'on attend depuis des années. Donc oui, je m'en souviendrai longtemps.
Combien de temps vous avez mis à la voir cette photo?
Alors, entre le moment en fait où on a commencé à, on a défini le programme de recherche avec Eric Pivert, et le moment où on a, bon, on a obtenu les photos au bout de 2 ans à peu près. Mais ensuite, il faut donc finir le travail, il faut valider les résultats et ensuite il faut les présenter à des journaux scientifiques prestigieux. Donc 2 ans pour obtenir la photo et 2 autres années pour le publier.
Bon, et une bouteille de champagne quand même, j'imagine.
Oh, une caisse de bouteille de champagne. On me l'a promis.
Ah bon, bah, ils ont intérêt à tenir leur promesse maintenant. Hein.
Oui,
c'est dit sur notre antenne. Jean-Christophe Meunier, merci beaucoup et bravo à vous et à Eric Pivert, donc de l'INSERM de Tours.
Merci bien.
Merci Axel.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'atterrisseur Schiaparelli de l'ESA s'est-il posé ou s'est-il écrasé sur Mars? Hier soir, on en parlait dans cette même émission à la même heure. La question reste en suspens après la perte de communication avec la sonde à quelques secondes de la surface de la planète rouge. Aucune nouvelle rassurante n'est venue ce matin de la conférence de presse donnée spécialement par l'ESA. Les données de l'atterrissage récoltées par l'orbiteur TGO, qui lui fonctionne parfaitement, vont être analysées pour comprendre ce qui s'est passé et statuer sur le sort de Schiaparelli. Charles Frankel, vous avez signé justement un article sur votre blog. Vous êtes absolument pessimiste, hein ?
Oui, en fait, c'est très dur de se poser sur Mars et... ce qui sera important, c'est d'avoir les résultats, la télémétrie de qu'est-ce qui a pu mal se passer. Parce que c'est un test, on essaye de se poser. Mmh. Donc, se crasher, ça fait partie de l'expérience. Ça aurait été bien de réussir du premier coup.
Ça fait un petit peu cher le crash quand même, non?
Oui, ça fait cher le crash. Hélas. On peut encore espérer qu'il s'est posé en douceur. Mais j'ai... Bon,
je... Vous n'y croyez pas beaucoup, apparemment.
Pas beaucoup.
Il y a 65 000 ans, en tout cas, l'homme mettait ses pierres dans le feu pour mieux les taillé, ça c'est une autre publication, c'est la conclusion d'une étude menée par la française Anne Delage. Après la découverte de pierres taillées portant des traces de chauffe intentionnelle en Afrique du Sud, en plus d'un renforcement de la dureté, la chauffe des blocs de silcrète augmente leur ténacité en éliminant les fissures internes. Un procédé apparemment très important dans l'industrie lithique puisque 92% des échantillons trouvés sur ce site portaient des traces de chauffe. Et puis enfin, si vous êtes intéressé par les mathématiques, notez que le colloque mathématiques oxygène du numérique est organisé aujourd'hui et demain au campus de l'Université Pierre et Marie Curie à Paris, au programme des tables rondes, des ateliers, des démonstrations, et puis une occasion aussi de rencontrer, entre autres, le mathématicien et médaillé Fields Cédric Villani, qui va animer donc ces 2 jours de présentation. Les renseignements et inscriptions sur Internet, c'est gratuit, mais il faut vous inscrire. C'est donc cet après-midi et demain sur matoxinome.fr. Je vous rassure, ce site est en lien sur la page Facebook de la Tête au Carré.